qu'on pourrait se lever quelques instants? J'aimerais qu'on puisse prier. Vous savez, la plus belle des musiques, ça ne suffit pas à changer une vie. Les réflexions les plus profondes, et je vais essayer ce soir d'être à peu près intelligent, mais ça ne suffit pas pour changer une vie. Le seul qui peut changer une vie, c'est la personne de Dieu. Et pour cela, nous avons un moyen, une possibilité, un outil qui s'appelle la prière. Quand je prie, je parle à Dieu. Et si j'ose croire, Jésus dira, si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, c'est-à-dire un petit peu de foi, mais la foi qui est un Dieu qui nous écoute, si j'ai la foi, je permets à Dieu d'agir dans ma vie. Par la prière, je parle à Dieu. Et par la foi, je permets à Dieu d'agir dans ma vie. Et qui que vous soyez ce soir, vous pouvez prier. Retenez une chose, s'il y a une chose à retenir, personne, écoutez bien ceci, personne ne peut vous empêcher de vous approcher de Dieu. Personne, ni même votre passé, vos mauvaises décisions, vos mauvais choix, même si vous vivez extrêmement loin de Dieu, c'était mon cas, mais personne ne peut vous empêcher de vous tourner vers Dieu. Et ce soir, personne ne peut vous empêcher de prier. Et si vous priez, Dieu vous entendra. Pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que Dieu nous aime. Comme un père aime ses enfants, et il entendra toujours le cri de ses enfants, et bien Dieu entendra toujours votre prière. Osez prier, osez croire que Dieu est vivant, osez croire que Dieu existe, osez croire que ce Dieu-là s'intéresse à nous, osez croire qu'il entend nos prières, osez croire qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix du calvaire il y a 2000 ans, osez croire que Jésus est mort il y a 2000 ans, osez croire qu'il est ressuscité, osez croire qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède en notre faveur, osez croire qu'en ce moment même, son esprit est agissant au milieu de nous et qu'au-delà des chansons de Marie, des paroles de Marie, au-delà même de ce que je m'apprête à vous dire, au-delà de nos mots, Dieu lui-même veut nous parler, Dieu lui-même veut nous interpeller. Moi, au mieux, je ne peux parler qu'à votre raisonnement, à votre intelligence, mais Dieu, lui, peut parler à notre cœur parce qu'il nous connaît parfaitement. Moi, je vois l'apparence, je vois que vous êtes tous beaux, que vous sentez bon, que vous êtes formidables, mais Dieu, lui, sait toute votre vie. Il connaît votre nom, votre date de naissance, il connaît votre avenir, il connaît votre passé, il connaît ce qui vous charge, vos fardeaux, ce qui vous a blessé. Dieu connaît exactement toutes les cicatrices que nous pouvons transporter. Et il est non seulement celui qui sait, mais celui qui peut guérir, renouveler, consoler. Alors osez prier ce Jésus, osez confesser le nom de Jésus. Il y a un nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Il y a une personne qui nous a été donnée par le ciel, c'est la personne de Jésus. Le ciel s'est déchiré, Jésus est venu, il a paru comme un simple homme, marchant au milieu de nous pour nous sortir des ténèbres, pour nous amener à la connaissance de la vérité et pour nous permettre d'obtenir le salut. Il est venu, Jésus, pour nous arracher à l'enfer et il est venu pour inscrire nos noms dans le livre de vie. Alors ce soir, tu peux simplement prier. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi en 1985. Je suis venu dans une réunion et je savais même pas qui était Dieu. Je connaissais rien à l'évangile. Mais ce jour-là, j'avais 22 ans. J'ai osé prier. J'ai osé dire, et si c'était vrai? Et si c'est vrai tout ce qu'on me dit? Et si c'est vrai qu'il y a un Dieu? Et si c'est vrai que ce Dieu-là, il m'aime? Alors ben moi j'ai osé le prier et je vais vous dire, je vais aller jusqu'au bout parce que c'est moi qui sonorise, alors c'est pas enregistré, donc je dis ce que je veux, non, je dis ce que la Bible veut nous dire et ce qui est arrivé dans ma vie. Je vais vous dire, la première fois que j'ai prié sans la foi, j'étais même pas sûr moi que Dieu existait, mais j'ai prié et j'avais l'impression de prier dans le vide, mais il n'y a pas de vide, il y avait la personne de Dieu et Dieu a touché ma vie. Dieu a changé mon cœur. Dieu m'a transformé. Il m'a donné un avenir et de l'espérance. Et de ce jour-là, eh bien, ma vie a pris une autre direction. la direction de la bénédiction. Et mon nom, ce jour-là, a été inscrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Mon espoir est en l'Éternel. Mon espoir est en Dieu. Il est malheureux l'homme qui se confie en l'homme. Mais il est heureux l'homme qui se confie en Dieu. Et je suis heureux, pas parce que ma vie est formidable, ou que, comprenez bien ce que je veux dire, hein, pas parce que ma vie est facile ou difficile, mais je suis heureux parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Et même quand la vie est difficile, je suis quand même heureux parce que je sais que ma barque, elle est tenue directement par la main de Dieu. Et ce soir, vous pouvez remettre votre barque entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus. On peut le reprendre encore une fois ? Je ne veux personne d'autre que Jésus.
Je ne veux personne d'autre.
Amen.
Je ne veux personne d'autre, non, non, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Chante encore, je ne veux personne d'autre.
Amen. On va fermer nos yeux si vous le permettez. Baisser nos têtes et j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, nous remettons ces moments entre tes mains. Nous réalisons le privilège que nous avons de nous trouver dans ta présence. Le privilège que nous avons de réaliser que la porte de la grâce, la porte du salut, elle est encore ouverte ce soir. Et que ce soir encore, tu appelles des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles au salut, à la vie éternelle. Et je te prie, Seigneur, que malgré les faiblesses de ton serviteur, tu agisses au milieu de nous. Tu as déjà parlé au travers des chansons de Marie. Et je te prie que tu nous parles au travers maintenant de ces réflexions bibliques. Au nom de Jésus, amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre... Une grande joie d'être avec vous dans cette belle ville d'Aubagne, dans cette belle région, sous ce beau soleil. Nous, à Limoges, pour avoir le soleil, il faut qu'on le prenne en photo. Du coup, on met des posters, vous voyez. On bronze à l'ombre des photos, nous. Mais voilà, vous vivez dans une belle région. J'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous la lisons. Vous savez, je le disais, et Jean-Marc Tcherketchian et Christine commencent à me connaître, moi je suis un gros mangeur. Ouais, je suis un gros mangeur, c'est comme ça. J'aime bien manger. Et il faut que je mange tous les jours de ma vie. Vous voyez ? Et ma femme, elle a un rêve, peut-être que c'est le rêve de beaucoup ici, c'est de pouvoir faire, vous savez, pour son mari, la famille, un repas, mais un bon repas pour la semaine. Et un jour, elle a essayé. Un dimanche midi, on est revenu du culte, on va à l'église, et puis on est revenu du culte, et là, elle nous a fait un méga repas. Et elle, dans sa tête, elle s'imaginait, avec comme ça, ils vont être rassasiés pour la semaine. Et puis, c'est vrai qu'à la fin du repas, on n'a plus faim. Quand on a bien mangé, on n'a plus faim. Sauf que, arrivée la fin d'après-midi, le cri retentit dans toutes les maisons du monde entier. Il y a un cri qui retentit. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Vous avez déjà entendu ça ? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Et on réalise qu'on a faim. Et d'ailleurs, même les médecins nous disent que c'est un signe de santé, au fond, d'avoir faim. Et notre corps a besoin de nourriture. Mais avez-vous remarqué que la nourriture, ça suffit pas ? J'ai besoin aussi, pour mon épanouissement, d'être reconnu par les autres. J'ai besoin d'être aimé par les autres. J'ai besoin d'aimer les autres, oui ou non ? Mais avez-vous remarqué que ça ne suffit pas ? Parfois on se dit, mais comment ça se fait ? Je suis quand même pas comme accompli, je suis pas complet. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous avons été créés pour vivre avec Dieu. Et il y a une autre dimension de notre vie que j'ai besoin. C'est ce qu'on appelle l'esprit. J'ai besoin d'une relation avec Dieu. Et c'est ainsi que la Bible, c'est aussi une nourriture. Alors je m'en nourris tous les jours de ma vie, je lis un petit peu tous les jours, je mange pas de la bouillabaisse tous les jours, hein, mais je me nourris de cette parole un petit peu tous les jours parce que j'en ai besoin. Et qu'est-ce que vous trouverez dans cette parole? Qu'est-ce que vous trouverez dans la Bible? Vous y trouverez des réponses quant à qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu nous veut, qu'est-ce que Dieu peut faire dans notre vie. Vous y trouverez des conseils. Et j'ose vous le dire parce que je sais qu'aujourd'hui, on veut pas entendre ces choses-là, mais vous y trouverez même des commandements de Dieu. Oui, il y a des commandements, comme les parents ont parfois des commandements avec leurs enfants. Nous, on a un petit-fils maintenant, et on va par exemple lui interdire de mettre la main dans le feu. Voyez ? Parce qu'on sait tous que les mains, ça repousse pas. Il y a des choses, on va les commander. Eh bien, Dieu nous donne des commandements, mais pas pour nous frustrer, parce que Dieu sait que dans la ville, il y a des choses qui sont dangereuses et qui sont pour nous très difficiles et qui risquent de nous marquer pour toute notre vie. Alors, lisez la Bible. Et puis, j'ai remarqué que quand on lit la Bible, même les papiers peints dans nos maisons, elles reprennent leur couleur originelle. Parce que je réalise, en lisant la Bible, que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je réalise que je suis précieux aux yeux de Dieu. Je réalise que Dieu n'en a pas fini avec moi. Je réalise qu'il y a des promesses pour tous les jours de ma vie. Je réalise que même dans les situations les plus difficiles, Dieu peut encore me parler, me soutenir et me consoler. Voyez-vous, et ma femme le sait, moi je suis un grand lecteur. J'aime lire. J'ai toujours aimé lire. Quand j'étais jeune, j'ai fait des études littéraires. J'ai toujours aimé lire. Et encore aujourd'hui, je lis beaucoup d'ouvrages. Je lis des livres pour me détendre, pour m'informer, pour m'instruire, pour m'enseigner, pour me former. Vous voyez, je lis toutes sortes de livres, pour me divertir, je lis toutes sortes de livres. Mais j'ai remarqué qu'il y a un seul livre qui est capable de me consoler, de me rassurer, de me réconforter, c'est la Bible. Un seul est capable de vraiment m'apaiser, de me réconforter, c'est la parole de Dieu. Alors lisez la Bible. Et si vous êtes venu que vous n'avez pas la Bible, c'est grave. Enfin, c'est pas grave de pas avoir la Bible ce soir, mais c'est grave de pas avoir la Bible. Alors ne partez pas de ce lieu sans la Bible. On offre des Bibles ici, hein. Donc, si vous n'avez pas la Bible, vous allez voir le pasteur Jean-Marc Tcherkétian. Oui, de temps en temps, il est gentil. Pas tous les jours, mais là, aujourd'hui, ça va, il est souriant. Non, il est formidable. On le connaît depuis des années. Vous savez que vous avez le meilleur pasteur du monde, hein. Eh ouais, gardez-le. Le problème, c'est qu'il coûte cher. Non. Gardez-le, mais venez le voir et demandez une Bible. Et il vous offrira une Bible au nom de l'Église, j'imagine. Hein. Nous vous offrirons une Bible, mais surtout lisez-la. Elle peut changer votre vie. Et donc, dans la Bible, eh bien, nous y trouvons notamment dans les Évangiles. Et j'aimerais ce soir vous inviter à aller dans les Évangiles, notamment l'Évangile de Luc, au chapitre 23. Et on va aller. Je vais vous emmener ce soir au pied du mont Golgotha. Les croyants savent ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Je vais vous emmener à cet endroit où il y a 2000 ans, trois croix ont été dressées, où il y a 2000 ans, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a été crucifié sur le bois infâme de la croix. Et voilà ce qui s'est passé là. Luc chapitre 23, verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu ». Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Et j'ouvre juste une parenthèse pour vous dire que cette inscription, c'était, comment dirais-je, comme une moquerie. C'était pour humilier, c'était pour dire, voyez, il se prétend être le roi des Juifs, mais il est le roi de rien du tout. Regardez-le, il est pendu à la croix, il est crucifié, lui qui se dit le Fils de Dieu. Eh bien, voilà où il est, votre Dieu, c'est ça, c'était de la moquerie. Donc, il y a cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. C'est terrible. Quand on lit le récit de la croix, c'est terrible. C'est un récit horrible. Nous y voyons de la souffrance. Nous y voyons de la douleur. Nous y voyons un homme qui est comme le paratonnerre de toute la violence humaine. On a l'impression que toute la haine des hommes là se déverse dans le Fils de Dieu. Le seul qui n'a jamais fait de mal à personne, c'est Jésus. Voyez-vous, il n'y a pas une personne sur terre qui peut dire qui a vécu ou qui vit aujourd'hui, ne peut dire « Dieu m'a fait du mal, Dieu a fait du mal, Dieu m'a violé, Dieu m'a violenté, Dieu m'a blessé, Dieu m'a brisé, Dieu m'a cassé, Dieu m'a rendu malade ». Pas une personne peut le dire. Tout ce que les gens qui ont rencontré Jésus disent le contraire. Dieu m'a reconstruit, il a reconstruit ma famille. On l'a entendu ce soir dans le témoignage de Marie, cette famille qui était vouée au divorce. Voilà, c'était ça le programme du diable pour cette famille, pour les parents de Marie. Un père alcoolique, violent, une femme dépressive. Mais ça va aller jusqu'où? Si Dieu n'était pas intervenu, eh bien il y aurait eu un divorce. Et derrière ce divorce, eh bien trois enfants désemparés, marqués. Et vous savez, les psychologues nous disent que la plupart du temps, les enfants reproduisent ce qui s'est passé chez les parents. Et peut-être qu'on aurait retrouvé avec les enfants du divorce, de l'alcoolisme, de la violence. Vous voyez, il y avait comme un enchaînement. Mais Jésus est intervenu. Jésus n'a jamais fait de mal à personne. Lorsque quelqu'un se donne à Jésus, la première chose que la personne dit, mais si j'avais su, j'aurais donné ma vie à Jésus bien avant. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 22 ans, mais si j'avais pu le faire à 12 ans, seulement j'avais pas eu l'occasion, j'avais pas entendu parler de ce Jésus-là, et je l'ai fait à 22 ans. Et tous ceux qui ont rencontré Jésus peuvent dire, mais comme ce brigand, au fond, il n'a rien fait de mal. Jésus ne fait pas du mal, il ne fait que du bien. Et parfois, j'entends des gens qui disent, qui pointent le poing vers Dieu, et Dieu ceci, et Dieu cela. Mais pointez pas le poing vers Dieu, pointez-le vers le diable. C'est lui qui veut détruire, c'est lui qui souille, c'est lui qui veut nous casser, nous briser, nous emmener avec lui jusqu'en enfer. Et donc voilà, nous y voyons la croix. Et puis au milieu de tout ça, moi, je suis pas doué manuellement, mais j'aurais voulu moi être peintre. Vous voyez, si j'avais eu cette capacité de peindre, je crois que j'aurais essayé de peindre la croix. Et parce qu'au fond, la croix c'est ténébreux, c'est noir, c'est violent, c'est cruel, mais il y a là le Fils de Dieu, et tout en Jésus est amour. Et lorsque on regarde la croix, toutes les paroles de Jésus, elles sont amour. Il n'y a aucune parole de haine de la part qui sort de la bouche de Jésus. Imaginez-vous à la place de Jésus. Vous êtes là, vous avez fait pendant plus de 3 ans, vous n'avez fait que du bien, vous avez guéri l'aveugle, vous avez purifié des lépreux, vous avez opéré la multiplication des pains, des poissons, vous avez nourri la foule au moins 2 reprises, vous avez apaisé la tempête, vous avez changé la vie de la femme samaritaine. Vous avez ressuscité le fils de la femme de la veuve de Naïn. Vous avez ressuscité la fille de Jaïrus. Vous n'avez fait que du bien. Et puis voilà qu'au bout de 3 ans et demi, les religieux se dressent contre Jésus, font un procès. Et on le sait, c'était un procès inique, injuste. Même Ponce Pilate, qui était quand même pas le prix Nobel de la paix, hein, même Ponce Pilate était gêné aux entournures. Et dit, mais vous voulez aller Jésus ou Barabbas? Et Ponce Pilate espérait qu'au fond on sauve Jésus. Mais la foule a dit non, sauvez Barabbas. Nous on veut que Jésus soit crucifié. Mettez-vous à la place de Jésus. Imaginez-vous, vous avez aimé. Vous avez fait tout, vous avez prêché le pardon, la réconciliation, un message de paix, de positif. Et puis voilà que vous êtes à la croix du calvaire. Mais quel sentiment vous auriez? Moi, je sais quel sentiment que j'aurais. Je pense que j'aurais eu de l'amertume, de la rancune, voire même de la violence. Mais vous savez quelle est la première parole de Jésus à la croix du calvaire ? Il est crucifié, hein, quand il dit ces paroles. Il est crucifié, les mains clouées, les pieds cloués, le côté percé, la couronne d'épines fixée sur son front. Il est sanguinolent. Et Jésus aurait pu dire, allez, basta, c'est ça qu'on dit dans le sud, hein. Basta, hein, c'est fini, c'est terminé, game over, comme disent les Anglais, c'est terminé, ils ont pas voulu en entendre parler, vous avez pas voulu de moi, eh ben c'est terminé. Et il aurait pu envoyer une légion d'anges pour régler tous les problèmes. D'ailleurs, ça aurait rien réglé du tout, parce que pour régler les problèmes, Jésus est venu pour transformer notre cœur. Mais la première parole de Jésus a été, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. C'est extraordinaire, hein ? Jésus nous a aimés. Jésus nous aime. Et la deuxième parole de Jésus, elle s'adresse à ce brigand. Et j'aimerais vous parler de ces brigands. Il y a donc trois croix qui sont dressées. Voilà qu'au milieu, enfin, on imagine, hein, que c'est la croix de Jésus. Et puis ces brigands qui sont là, qui sont crucifiés avec Jésus. Mais les deux brigands... Eux, ils sont vraiment crucifiés, là j'allais dire, d'une manière, comment dire, juste. Ils ont commis des méfaits, certainement des méfaits graves. On ne sait pas, hein. Ce sont des criminels, certainement, un lourd passé, une mauvaise conscience, un casier judiciaire accusateur. Tous les deux sont en agonie sur la croix. On pourrait presque dire, d'ailleurs on dit souvent les deux larrons. Je sais pas s'ils se connaissaient, mais on peut imaginer les deux compagnons, les deux copains. Je sais pas s'ils se connaissaient. Mais en gros, si on les avait vus, on aurait pu dire, bon, ils ont eu à peu près la même vie, quoi. La même trajectoire. C'est pas si vous avez demandé en ami sur Facebook, je pense que vous les auriez pas acceptés non plus, hein. Moi, je les aurais pas invités non plus à ma fête d'anniversaire, voyez. C'est le genre de gens qu'on essaye d'évacuer de nos vies, tous un passé chargé, lourd, pénible. Mais quand on... La parole de Dieu, voyez-vous, elle ouvre le voile sur l'éternité. Elle déchire le voile sur l'éternité. Et il y en a un des deux. Et je ne peux pas vous dire le... voyez, moi j'aimerais vous dire, et je pense que le pasteur Jean-Marc Tcherkétian, on aimerait vous dire vraiment, moi j'aimerais pouvoir vous dire, vous savez quoi ? Les deux brigands, ils vont au ciel. Quoi qu'il se passe, de toute façon, Dieu est bon. Dieu est amour. Moi j'aimerais pouvoir vous dire, ils vont tous les deux au ciel. Eh bien non, parce que je serais un menteur. C'est pas ce que la Bible nous dit. Vous savez ce que la Bible nous dit ? Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Et quand je lis ce récit à la croix de la croix et de ce brigand qui se donne à Jésus, je bénis Dieu. Je dis, Seigneur, tu es formidable. Parce que cet homme que personne n'aimait, qui était rejeté de tous, de la société, toi tu ne l'as pas rejeté. Tu lui as tendu la main, pourtant ta main, elle était clouée. Mais même clouée, la main de Jésus est quand même tendue vers ce brigand. Et ce brigand a pu s'approcher de toi par la repentance, par la foi. Et vous savez quoi ? Quand on ira au ciel, on retrouvera ce brigand. Parce que Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, je bénis Dieu. Et puis en même temps, en lisant ce texte, je suis triste. Très triste. Parce que je me dis quand même l'autre brigand. Mais quand même, c'est terrible. Il a vécu ce que tous les chrétiens en auraient voulu vivre. Voir Jésus en chair et en os. Vous voyez le privilège qu'il a eu quand même ? Parler à Jésus. Bon, nous le matin, on voit les Tcherkétchians parfois au petit déjeuner. Alors je parle avec Jean-Marc. Bon, ça égaye ma journée. Mais c'est pas Jésus, quoi. Bon, quoique je me fais du bien. Mais voyez ce que je veux dire ? Là, il y avait ce privilège. Et ils sont avec Jésus. Ils parlent, vous imaginez ? T'imagines, Jean-Marc, Jésus assis à côté. Voilà, là, on peut le... Bon, là, ils ne pouvaient pas le toucher parce qu'ils étaient tous cloués. Mais entendre sa voix, lui parler, voyez ? Et il a ce privilège, ce brigand. Les deux brigands ont le même privilège. Et c'est ça qui m'attriste. Voyez, le deuxième brigand qui ne se donne pas à Jésus ne pourra pas se cacher derrière son petit doigt en enfer en disant « Je ne pouvais pas m'approcher de Dieu ». Personne ne pourra dire « Je ne pouvais pas m'approcher de Dieu ». Et toi-même, si tu ne t'approches pas de Dieu, tu ne pourras pas dire « Je ne pouvais pas m'approcher de Dieu ». Dieu ne m'a pas entendu. Vous voyez ce brigand-là ? Le problème, c'est qu'il va passer l'éternité en enfer. Il y en a un des deux, il va passer l'éternité au ciel. Et l'autre, Pourtant, ils sont quasiment morts, j'allais dire presque à quelques secondes ou quelques minutes d'intervalle. Mais il y en a un des deux, le ciel s'ouvre pour lui. Et il y en a un des deux, le ciel est fermé pour lui. Et il passera l'éternité en enfer. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est pas leur vie. Parce que quand on regarde bien ces deux brigands, eh bien, ce sont des crapules, ce sont des criminels, certainement avec un sale caractère, un passé difficile, lourd, chargé. Les deux brigands, d'ailleurs, quand on lit un autre évangile, on s'aperçoit que les deux brigands se moquaient de Jésus. Et à un moment donné, il y en a un des deux, il a réalisé son erreur. Vous voyez, donc les deux, c'était des malfrats, c'était, on pourrait dire, des mauvais gars. Mais au fond, c'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes tous pécheurs. Tous pécheurs. Et au fond, on n'est pas mieux, vous et moi, que ces brigands. On n'est pas mieux. Et je repensais, vous savez que cette semaine, il y a eu ce gendarme là qui a été tué dans cet accident terrible, hein, à cause d'un refus d'obtempérer. Alors, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais je me dis, parfois, tout bascule quand on fait des mauvais choix. Il y a celui qui va refuser d'obtempérer. Et puis c'est la mort. C'est la mort d'une personne. C'est une vie gâchée. C'est plusieurs vies qui sont détruites, qui sont gâchées. Et parfois, face à Dieu, il y a le refus de croire. Il y a le refus de saisir la main de Dieu. Et puis il y a l'autre qui va accepter d'obtempérer. Accepter de s'approcher de Jésus. Accepter d'écouter la voix de Jésus. Il y en a un des deux qui va se moquer de Jésus. Et puis l'autre qui va être repris dans son cœur parce qu'il va réaliser, il lui dira, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? C'est, pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Au moins, il y en a un des deux, il est honnête. Il est peut-être, c'est peut-être un mauvais bougre, mais il est honnête. Et il est honnête. Il dit la vérité. Il dit à Jésus, enfin, il dit à son copain, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, et j'aimerais vous inviter à y réfléchir, c'est que il va oser prier. Moi, je ne sais pas honnêtement, quand il a dit, d'ailleurs, on le voit quand même dans ce qu'il dit, je pense qu'il n'était pas sûr de lui, hein. Il n'était même pas sûr que Jésus l'écoute, ni même l'entende. Il va lui dire, souviens-toi de moi. Et puissiez-vous saisir cette prière, que ce soit votre prière, souviens-toi de moi. S'il y a un Dieu dans le ciel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de qui je suis, de peut-être de ce que j'ai vécu. Vous voyez, ce brigand, il n'est pas fier de lui. Et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais il a compris que ce Jésus qui est crucifié à la croix du calvaire, ce n'est pas un homme ordinaire. Lui, bien des gens ne voient qu'un homme qui est cloué, qui est crucifié. Mais ce brigand, en un instant, il devient un grand théologien. Hein ? Il comprend, parce qu'il dit de ce Jésus qui est crucifié avec lui, quand tu viendras dans ton règne. Il comprend, il y a une révélation par le Saint-Esprit, il comprend que ce Jésus, c'est un roi. Il est le roi des rois. Et voyez-vous, ce soir, n'oubliez pas qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu s'est donné pour chacun d'entre nous, afin de nous ouvrir la porte du ciel. Il y en a un qui va rester dans son passé, mais l'autre qui va saisir la main de Dieu. Alors on peut vivre loin du miracle. On peut vivre dans la nostalgie, dans les regrets, dans les remords, dans les erreurs, dans les échecs, dans les choses qu'on a ratées, à tous nos actes manqués. La chanson de c'est Goldman, hein, c'est ça ? À tous nos actes manqués. Et on peut vivre dans la nostalgie, en complet. Voilà, toute notre vie, on dit, si j'avais su, j'aurais dû. Vous savez, moi, il y a des tas de choses dans la vie que je n'ai pas choisies. J'ai grandi, quand j'étais jeune, jusqu'au lycée, jusqu'au bac, j'ai grandi dans une petite ville à côté d'une base aérienne. Et il y avait de mes copains qui avaient les papas qui étaient militaires à la base aérienne. Et certains des papas étaient pilotes de chasse, les gars. Et nous, quand on était au collège, au lycée, moi, j'avais de mes copains, ils étaient enfants de pilotes de chasse. Et le dimanche, on allait parfois à la base aérienne et les papas nous permettaient de toucher, c'était les Mirage F3, là, et on touchait ça. Et moi, je rêvais, avec les autres copains, on rêvait, nous, moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, c'était clair, hein, moi, je veux être pilote de chasse. Je veux conduire ce machin-là, là. Moi, je veux être mirageux, voilà, professionnel, voilà, je veux conduire ça. Et parfois, on avait ce privilège, grâce à ces soldats-là, d'être là, et puis on les voyait décoller. En plus, ça fait énormément de bruit. Nous, les gars, on aime bien quand ça fait du bruit. Hein, faut que ça fasse du. Plus ça fait du bruit, plus on est heureux. Hein. On n'a plus d'oreilles, mais on est content quand même. Bon voilà. Et on voyait ça. Et puis, mais on subit des choses. Et puis donc j'ai grandi comme ça et j'avais quand même deux problèmes. C'est que j'étais pas très bon en maths. Bon. Et j'étais myope. Vous voyez, il y a des tas de choses dans la vie qu'on subit. Moi, j'ai pas choisi la couleur de mes cheveux. J'ai pas choisi ma date de naissance. J'ai pas choisi mon lieu de naissance. On choisit pas d'être pauvre. On choisit pas d'être riche. On choisit pas la couleur de sa peau. Il y a des tas de choses qu'on choisit pas. J'ai pas choisi ma capacité en maths. Pourtant, croyez-moi, hein, dites-le à mes parents, je bossais quand même. J'ai essayé de bosser, mais j'y arrivais pas, moi. 1 + 1, j'y arrive pas. Vous voyez? Bon, voilà, des choses, on a des talents, des capacités différentes. Parfois des incapacités différentes. Mais bon, mais on ne choisit pas ces choses, oui ou non? Mais il y a une chose que l'on peut choisir, c'est de marcher avec Dieu ou pas. Et personne ne nous pourra dire « je ne pouvais pas m'approcher de Dieu ». Voyez-vous, ces deux brigands-là, c'est vrai qu'ils ont eu une vie difficile. On pourrait dire « ils ont eu la faute à pas de chance », c'est vrai. Peut-être que si un psychologue s'était penché sur leur vie, ils auraient dit « ah mais quand même, les pauvres, ils ont eu une vie difficile ». C'est probable. Mais ils avaient tous les deux la possibilité de confesser le nom de Jésus. Personne n'est empêché de s'approcher de Jésus. Et voyez-vous ce soir, voyez, on peut vivre dans la nostalgie, on peut vivre dans les regrets, on peut vivre aussi dans les rêves. S'imaginer que demain ça ira mieux, mais on ne change rien dans notre vie. Demain ça ira mieux, mais ça ira pas mieux si tu ne changes rien dans ta vie. Si je ne change pas les choses, il n'y a rien qui peut changer. Mais ta vie, elle peut changer. Si tu donnes ta vie à Jésus, crois en Jésus. Approche-toi de Jésus par la repentance et la foi. Réalise qu'à la croix du calvaire, il est mort pour le pardon de tous tes péchés. Approche-toi de Jésus en disant comme cet homme, ben oui, je mérite cette condamnation. Je suis un pécheur, je suis condamné. Mais Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés et je veux m'approcher de toi. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Est-ce qu'on peut demander à Dieu sa grâce? Seigneur, nous...